Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous choisir. Nous sommes au mardi 4 juin 2024. Il sont 11h, passé de quelques instants sur votre radio. Merci de nous choisir pour ce deuxième numéro de l'émission Club de la Presse pour le compte de cette semaine. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Coco, Vitor Betomega est à la mise en onde. Jérôme Dakouta sur la mise en ligne. Je suis au micro, Pascal Lossou. Nos salutations fraternelles à vous tous et qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nihor, Radio La Paix à Takpame, Sky FM à Badou, Central FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Koktouazi à Dapaon. Et vous comprenez que nous couvrons tout le Togo avec cette émission Club de la Presse. Vous avez aussi le privilège de nous suivre partout au Togo, dans le monde, bien sûr, j'allais dire, grâce à nos différentes plateformes digitales et aussi nos radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Les Bénins. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, le débat et l'analyse de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi. Adam Adronou est là. Adam, bonjour.
Bonjour Pascal, merci de m'avoir invité. Bonjour à tous et à tous ceux qui nous suivent.
Bien passé le week-end, puisque ça nous avons démarré la semaine de travail déjà depuis hier.
Ouais, ça va.
Ça va. D'accord. Eric Parkoudjo-Johnson, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour Adam, bonjour chers amis auditrices et auditeurs de Canal FM.
J'espère que tu vas bien.
Tout va bien, merci.
Dieu merci. Alors, j'espère que nos amis auditeurs, auditrices aussi se portent très bien et que déjà à partir à l'heure de midi, ils vont participer aussi, hein, puisque ce débat sera ouvert à eux, et ils vont participer aussi à ce débat à travers nos deux numéros, le 22 21 33 114 et 91 36 63 75. Alors, comme Eric, nous savons bien le faire, chaque mardi, nous débutons ce débat par la culture, la page culture, bien sûr, et donc, vous nous annoncez hein, dans votre journal ce matin pour la patrie et l'union, ou l'union pour la patrie, bien sûr, vous nous annoncez que Sami Tchak, fraîchement, il est fraîchement lauréat lors du prix Tchek Hamidou Kan. Et justement, c'est un prix, hein, c'est bien sûr lors du Festival international de littérature de Dakar que ce prix lui a été accordé. C'est bien ça, Eric?
Oui, on l'avait déjà annoncé la semaine dernière, c'est-à-dire dans notre parution du vendredi, que Sami Tchak est finaliste du prix Tchek Hamidou Kan, qui est décerné lors du Festival international de littérature de Dakar. Et donc, nous avons souhaité qu'il soit quand même le lauréat. Et Dieu merci, nos voeux ont été exaucés. Et le samedi 1er juin, l'annonce a été faite à la clôture de ce Festival international de littérature de Dakar que Sami Tchak est le lauréat du prix Tchek Hamidou Kan. Et j'avoue que l'information a été donnée par lui-même à travers un tweet qu'il a envoyé en disant que c'est confirmé et que lui-même n'était pas à Dakar, mais il y a quand même quelqu'un avec qui il a l'habitude de travailler qui lui a annoncé la nouvelle depuis Dakar. Et donc, il était très content. Il a écrit et il était également très content pour son éditeur, hein, la jeune maison d'édition
Les Continents
de Sébastien Vondoli. Et donc, je crois que c'est un grand honneur pour la littérature togolaise hein, d'engrancher hein, des prix, comme Sami Tchak vient de le recevoir. C'est à travers son roman qui a été édité à Lomé en juin 2023, qui s'appelle « Mélodie pour une douleur ». Sami Tchak, il faut le dire, hein, et il a déjà à son actif plusieurs prix. Et il est romancier, essayiste, nouvelliste. Il a à son actif plus d'une quinzaine de romans, plus d'une dizaine d'essais et plusieurs autres nouvelles. Donc je crois que c'est le couronnement hein, de l'œuvre de notre grand auteur, Sami Tchak. Et dites-vous, dans son tweet, il a balancé une photo où il était allé rencontrer Cheikh Hamidou Kan à Dakar dans son domicile. Et là, c'est comme une prémonition. Et donc, c'est comme pour dire, attends, je serai dans tes trousses, je serai sur tes pas. Et voilà, aujourd'hui, Sami Cheikh qui est lauréat du prix au nom de celui qu'il appelle mon père. Mmh. Puisque lui-même, il a écrit « Rencontre avec mon père en juin, je crois, 2018. » Et je crois que, non, 2014. Ça fait pratiquement 10 ans qu'il était allé rencontrer Cheikh Hamidou Kan chez lui à Dakar.
D'accord, Adam.
Vraiment, bravo.
Bravo, justement. Adam, quand on suit justement cette information, Sami Cheikh, écrivain togolais de renom.
Excuse-moi.
Oui, oui,
Eric. J'allais oublier qu'à la suite de ce prix, il y a l'éditeur Sébastien Vandoli qui a également écrit pour féliciter l'auteur et sa petite maison d'édition. Et il y a eu également une réaction du ministre de la Culture, docteur Pierre Lamadoku, qui a félicité l'auteur et la maison d'édition Les continents.
D'accord. Oui, Adam, je disais que Sami Cheikh, c'est un écrivain togolais de grosse pointure, parce que allez, on connaît en quelque sorte le parcours de Sami Cheikh et on connaît également l'écriture de Sami Cheikh. Aujourd'hui, aussi avec la maison d'édition Les Continents, on pourra dire tout simplement que c'est un prix mérité.
Oui, bien évidemment. Vous savez, c'est un prix mérité dans la mesure où vous l'avez dit, lorsque nous prenons l'artiste, c'est vrai, lorsque nous prenons le conglomérat également de la connaissance des écrivains togolais, c'est vrai que ces derniers moments, lorsque nous prenons un certain nombre de dirigeants, notamment le ministre Lamadoku, qui a essayé également, depuis son magistère, de pouvoir remettre, en tout cas, ces acteurs-là sur le feu de la rampe, il faut dire que l'artiste ou l'écrivain a une écriture très relevée. Et justement, je pense que lorsqu'on les cite, justement, lorsque vous prenez les journalistes, etc., ceux qui s'intéressent à l'œuvre littéraire lisent ces romans, mais lorsque vous prenez le Togo pris dans sa globalité, c'est rare qu'on puisse véritablement le connaître. Voilà pourquoi moi, j'essaierai au-delà de ce prix qui permet encore de ressusciter certains actifs de l'homme, il serait quand même de bon ton que nous pouvons inciter nos autorités à toujours faire valoir les écritures ou les écrivains togolais à travers leurs œuvres pour que, en tout cas, les élèves ou carrément les intellectuels togolais puissent donc s'intéresser à ces œuvres-là. C'est, en tout cas, pour moi, c'est l'essentiel. Puisque aujourd'hui, cet aspect de la chose est en train réellement donc de mourir. Parce qu'on sait que naturellement, et l'homme ou sinon le Togolais ne lit pas assez, mais ceux qui s'intéressent, lorsque vous parcourez certains de ces œuvres, vous vous rendez compte véritablement qu'il y a de la matière à véritablement vendre, et justement, il a vendu au-delà des frontières africaines, et qu'on ne peut que saluer.
On ne peut que saluer ce parcours. Merci beaucoup, Adam. Jean-Baptiste Atisso nous a rejoint. Jean-Baptiste, bonjour.
Pascal.
J'espère que tu vas bien.
Non, grâce à Dieu.
D'accord, nous sommes en train de parler de ce prix que Sami Cheikh vient de décrocher. Et là, nous disons que Sami Cheikh, c'est un écrivain togolais avec une écriture bien relevée, telle que l'a dit tout de suite Adam. Et on dirait tout simplement que c'est toute la littérature togolaise, même d'ailleurs, qui vient de décrocher ce prix.
Oui, je crois que... il est de bon temps quand même de le féliciter parce que au-delà de sa personnalité, féliciter tous les écrivains togolais qui depuis un certain temps font l'effort quand même de se rassembler, parce que j'ai connaissance qu'il y a une association maintenant qui existe des écrivains qui est pilotant.
Oui, AET, vous l'avez dit. Oui, Association des écrivains du Togo.
Du Togo.
C'est donc, piloté par Madame Germaine Koumialo Anaté.
Donc, il y a une organisation qui se fait au niveau de ce secteur et que nous devons encourager. Et au-delà de ça, des acteurs même, il faudrait que, comme on le dit naturellement, il faut qu'il y ait vraiment de l'accompagnement de la part des politiques, parce que vous savez, ça aussi fait partie de la créativité, quand il y a beaucoup d'écrivains, ça rehausse l'image du pays, tant à l'interne qu'à l'externe. Donc il faudrait quand même qu'il y ait vraiment un accompagnement pour susciter au sein de l'intelligence togolaise, comment l'appelle-t-on, un goût à la littérature, pour que au-delà de sa personnalité, beaucoup d'autres Togolais puissent s'intéresser, et du moins à ce pan d'activité qu'est l'écriture. Et c'est ce que nous pouvons lui souhaiter et le féliciter pour qu'il aille de l'avant, pour que notre pays soit rehaussé à travers ses écrits.
D'accord. Alors, Eric, c'est vrai que quand vous faites une immersion dans la littérature togolaise, vous verrez quand même qu'il y a une floraison d'écriture aujourd'hui, et même d'écrivains. Il y a des jeunes également qui écrivent. Mais est-ce que vous avez l'impression que l'accompagnement qu'on doit apporter, surtout à ces écrivains, est de mise?
Non. Nous le disons tout le temps. Il faut véritablement qu'il y ait sur place des structures qui apportent quand même ce soutien là aux écrivains togolais. Je voudrais dire, les gens ont essayé avec beaucoup de festivals qui sont organisés et ici et là, et pourtant il n'y a pas ce que je veux dire des émulations au cours de ce festival. Je voudrais dire, ce festival international de littérature de Dakar, c'est doté de 3 grands prix. Il y a un prix pour la poésie, c'est le prix Annette Mbaye Demveil, qui dote les poètes d'un prix, d'un grand prix. Au-delà, il y a un prix qui est réservé aux auteurs, aux romanciers sénégalais, c'est le prix Abdoulaye Racine Senghor. Et il y a ce troisième prix qui est le prix international que vient de décrocher Smichak. Vous imaginez que lorsque vous organisez un festival et que vous arrivez à apporter du soutien, c'est vrai que le plus souvent ces prix sont dotés de cagnottes d'argent, je veux dire. Tout de suite, je me rappelle quand Samichak a reçu le prix international de livres en Côte d'Ivoire il y a de cela 4 ans, mais c'est doté de 3000 euros. Ça permet à l'artiste, sinon à l'écrivain, de continuer par faire des recherches, par sortir. Vous savez que parfois pour écrire, il faut se retrancher. Mais se retrancher où? Dans quelles conditions? Lorsque vous n'avez pas les moyens, vous ne pourrez pas le faire.
Et pratiquement, les résidences n'existent plus.
Les résidences existent ici, mais c'est organisé par qui? C'est ça la question. Pour la plupart, c'est l'Institut français du Togo qui organise ces résidences d'écriture pour les écrivains togolais. Et là, l'Institut français, donc, il est obligé de faire venir des écrivains d'ailleurs pour organiser ces résidences. La même chose pour les artistes, les artisans, etc. Mais il faut qu'au niveau de notre ministère de la Culture, qu'on s'organise ainsi pour pouvoir permettre aux artistes, aux écrivains, de pouvoir éclore leur œuvre celle de Samichak.
Ok. Adam, c'est vrai qu'avec ce prix décroché par Samichak à Dakar, c'est tout le Togo qui est en l'honneur à Dakar. Mais également, vous nous faites savoir par rapport à une information, vous nous informez que il y a la 10e édition de la Foire internationale d'art de Rome qui se déroule bien sûr aussi, et vous dites que l'artiste togolais Adotevi Joël est, c'est lui le seul Africain exposant.
Oui, c'est une information qui a fallu passer inaperçue et que nous avons voulu en tout cas mettre également à découvert. Vous savez, c'est lorsqu'on parle du festival de la foire internationale d'art de Rome, vous savez, c'est une très très grande foire des expositions Il y a les sculpteurs, les photographes, les arts plastiques, etc., de par le monde. Et cela se fait par appel à candidature, dont vous présentez vos œuvres. Et ces œuvres-là sont sélectionnées et exposées durant 2 semaines. Et ça finira le 6 juin prochain. Puis ça a débuté, je crois, le 24 mai, et ça finira le 6 mai. Et donc, parmi les œuvres sélectionnées cette année, hein, pour être exposées à la Foire internationale d'art de Rome, il n'y a que Adotevi. Parmi toutes les œuvres présentées par les Africains, parlons des milliers, hein, parce que c'est tout le monde entier qui vient exposer, hein, ces œuvres-là. C'est l'unique œuvre africaine qui a été donc sélectionnée. Et c'est notre compatriote Adotevi qui est un. Malgré son handicap, a pu produire, en tout cas, cette œuvre-là.
Il existe dans quel art?
Je pense qu'il fait le plastique.
D'accord.
Il fait le plastique. Et je pense que son œuvre, il l'a intitulée Bidounono, ça veut dire le pragmatisme. Je pense que nous l'avons également publié. Et donc, je pense que malgré son handicap, il a su, quand même, parmi ces milliers d'œuvres collectionnées de par le monde, être sélectionné pour prendre part à cette foire internationale de Rome, je pense que cela mérite d'être acclamé. Et justement, comme je l'ai dit, nous n'avons pas l'habitude, et surtout, vous savez, l'autoflagellation du Togolais a pris de l'ascendance, si bien que nous avions, en tout cas pour certains, pouvoir oublier certains exploits de nos compatriotes. Et donc, je pense que par rapport à cette œuvre-là, il mérite également d'être perçu par nos hautes autorités. Je pense que certains, surtout lorsque nous prenons le ministère de la Culture, le connaissent très bien. Et donc, je pense que c'est un exploit également. C'est le Togo qui vibre au rythme du monde entier concernant donc les arts à Rome. Et donc, je pense que c'est ce que nous avions pu relever sur son exposition qui a été sélectionnée pour prendre part à cette foire.
Alors, Jean-Baptiste, est-ce que vous comprenez le fait que déjà, il y a Adotevi Joël, qui est le seul Africain, Togolais bien sûr, seul Africain à être représenté alors à cette foire internationale d'art de Rome, mais au pays, alors, c'est inaperçu.
Oui, vous voyez, c'est le paradoxe de notre pays, parce que moi je l'ai dit tantôt qu'il faut réellement que au niveau des preneurs d'ordre, il faudrait qu'il y ait réellement un accompagnement.
Les décideurs, vous voulez dire.
C'est ça, bien sûr, parce que vous savez, entre-temps, c'est pas le. Il y avait un fonds qui était destiné à l'accompagnement des artistes, le fonds d'appui à la culture, je ne sais pas si c'est ça la bonne appellation, qui tournait autour de 300 millions. Il y a 4 ou 5 ans de ça, je ne sais plus si réellement ça continue d'être octroyé aux artistes. Mais
ça continue.
Oui, je crois que ça, quand même, si c'est le cas, il faudrait que ça puisse atteindre un certain nombre de domaine d'art, parce que vous savez, aujourd'hui, si il est le seul à représenter le continent, tout le continent, il faudrait quand même que réellement l'autorité, le ministère de la Culture notamment, puisse quand même l'accompagner à travers peut-être ce qu'on peut appeler un boom médiatique à travers ce que le compatriote est en train de faire à l'étranger, en Italie notamment. Donc il faudrait que réellement le ministère puisse peut-être au retour de notre compatriote une fois encore lui-même accompagné du ministère puisse organiser peut-être des conférences de presse pour pouvoir faire valoir ce qu'il est parti faire à Rome. Et au-delà de ça, je crois fermement que nous ne savons pas vendre trop nos compatriotes. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de talentueux, mais qui parfois, par faute de moyens, n'arrivent pas quand même à émerger. Sur le continent, mais tel comme notre compatriote vient de faire cet exploit jusqu'à être le seul Africain à cette foire, je crois que il est de bon ton que l'accompagnement médiatique puisse le suivre pour faire rayonner.
D'accord. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Eric, est-ce que nous n'avons pas alors de difficultés à célébrer nos artistes?
Des difficultés, oui, parce qu'il faut forcément des organisations dignes de ce nom et des organisations qui doivent forcément se multiplier. Et vous savez, il y avait un début de quelque chose dans il y a de cela 10 ans. Quand vous regardez un peu, il y avait beaucoup de festivals. Et comme je le disais, c'est des festivals qui s'organisaient pour aider justement les artistes à montrer leur talent. Mais après, tout s'éteint. Il faudrait recommencer l'année suivante ou 2 ans après, hein, pour revoir encore d'autres artistes. Mais il n'y a pas de continuité dans ce qui se fait. Parce que, très sincèrement, les gens manquent de moyens. Les gens manquent de moyens. Et Tissot parlait, par exemple, du fonds d'appui à la culture. Et aujourd'hui, ce fonds-là est scindé en deux, parce qu'il y a une partie qui est réservée uniquement pour les cinéastes. Et maintenant, les autres les acteurs de la culture ont leur fonds à côté. Mais je pense que ce fonds-là, très sincèrement, est très insuffisant pour arriver quand même à un niveau où nous pourrons avoir des artistes qui sortent, des artistes qui émergent. Parce que c'est une entreprise qui coûte énormément cher. Il faut le reconnaître. Il parlait, par exemple, de la communication autour de ces artistes-là. Mais comment communiquer si vous n'avez pas les moyens? Parce que la communication aussi coûte cher. Et je crois qu'il faut finalement trouver quand même le bon mécanisme pour pouvoir faire émerger nos artistes. Il faut véritablement les aider.
Il faut véritablement les aider. Merci beaucoup, Eric. Nous sommes rejoints par notre confrère Dieudonné Sihono. Dieudonné, bonjour.
Bonjour, Pascal.
Vous êtes journaliste et directeur de publication, directeur du journal en ligne ou du média en ligne Elis, c'est bien ça?
Elios Info.
Elios Info, bien sûr. Elios Info. Alors, Dieudonné, nous sommes en train de discuter alors de la culture, comme nous avons l'habitude alors de le faire dans chaque mardi dans cette émission Club de la Presse. Nous avons parlé alors de ce prix que notre compatriote Samitsak a décroché. Et nous parlons cette fois-ci alors de cette 10e édition alors de la Foire internationale d'art de Rome, où le seul artiste africain qui est représenté, c'est un Togolais, c'est Adotevi Joël, qui est totalement inaperçu. Hein, mais moi, la question que j'aimerais vous poser, est-ce que vous avez vraiment l'impression que, pour ce qui concerne la culture chez nous, on arrive à apporter aussi de l'accompagnement dans cette culture ou dans ce secteur comme cela se doit?
Alors, merci Pascal. En tout cas, je profite de cette occasion pour dire merci à toutes les auditrices et auditeurs de la radio Canal FM. C'est pour ma première fois d'être dans ce studio. Je vous en remercie. D'accord. Alors, revenons à votre question. Je voudrais d'abord signaler qu'au niveau étatique, est-ce qu'on a une politique claire de la promotion culturelle de chez nous? C'est aussi ça la grande question. Pour pouvoir étaler sur une éventuelle promotion culturelle ou promotion de la chose culturelle de chez nous, il faut véritablement qu'une politique culturelle soit établie et définie de façon très claire. Alors à ce niveau, je me dis qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Heureusement qu'on est dans une autre république. Je pense que les définitions seront beaucoup plus claires maintenant pour faire ce qu'il y a lieu de faire et qu'on voie de façon beaucoup plus précise la chose culturelle, surtout liée à nos territoires togolais. Oui, on en fait comme on peut, les uns les autres l'ont dit. Je me dis, on agit en fonction des moyens et en fonction des possibilités. Oui, le Togolais fait beaucoup.
Est-ce que si on a la volonté politique alors de le faire, on ne peut pas le faire?
Oui, c'est ce que j'ai dit tantôt. J'ai dit qu'il faut d'abord une politique claire de la promotion culturelle. Et cette politique, je pense que elle existe, mais elle manque encore de peu de soutien ou alors de peu de teneur pour être véritablement visible. Cette politique culturelle doit être véritablement définie d'abord avant de relancer ou alors avant de lancer tout ce qui tourne autour. Donc, politiquement, il faut d'abord un point beaucoup plus précis. Cette volonté, oui. Qui va avoir la volonté si ce ne sont pas les décideurs? Voilà pourquoi je parlais tantôt d'une autre république qui devra nous relancer sur des réels sujets de développement et des déclarations que notre pays représente à l'extérieur. On a l'impression que nos artistes sont beaucoup plus visibles à l'extérieur, mais à l'intérieur, on ne les retrouve pratiquement pas.
Adam, est-ce que vous avez aussi l'impression qu'à l'extérieur, nos artistes sont plus visibles?
Bien évidemment, je parais à l'entame de l'autoflagellation qui est très avancé dans nos contrées, surtout lorsque nous prenons la question culturelle, même culturelle. Il y a été ces derniers temps où certaines approches liées au fait que l'international justement s'intéresse plus à la question a suscité, en tout cas à l'interne, des politiques qui ont commencé déjà par faire leur preuve, même si ce n'est pas encore impactant. Nous pouvons déjà saluer le fait qu'on reconnaît visiblement que, en tout cas, cet aspect de la joie est très important et qu'il faudrait véritablement donc l'accompagner, l'appuyer, faire en sorte que cela puisse également faire rayonner le nom du Togo, comme c'est le cas actuellement avec notre compatriote qui, dans l'ombre, fait vibrer le nom du Togo à l'international, sinon de l'Afrique entière, parce que je le disais tantôt, c'est l'unique œuvre choisie parmi les œuvres présentées sur le continent. Donc je pense que ce n'est pas rien. C'est déjà quelque chose. Il faudrait véritablement accompagner ce gars. Comme je le disais, c'est un handicapé, mais il fait déjà du bon.
C'est une personne handicapée. C'est une personne en situation d'handicap.
Voilà. Donc je pense que s'il a un appui, on pourrait véritablement propulser cet homme-là au firmament, au devant de la scène, et peut davantage faire beaucoup mieux.
D'accord. Alors, Eric, rapidement.
Il y a aussi une question. C'est vrai qu'il faut soutenir les artistes. Mais au-delà, est-ce que les artistes eux-mêmes travaillent profondément sur leur œuvre? C'est là aussi.
Vous pensez qu'ils ne travaillent pas profondément sur leur travail?
Non, je dis, mais ils sont nombreux. Ils sont nombreux, les artistes. Mais pour émerger, il faut véritablement que votre art soit à un certain niveau. Le cas de notre compatriote Adetevi, mais c'est un cas, je pourrais dire...
Isolé
non, pas isolé, mais c'est... Je dis, pourquoi, par exemple, ce n'est pas deux Togolais? Pourquoi ce n'est pas trois Togolais qui ont été choisis? Ne pense pas que c'est lui seul qui a fait des propositions. Si on dit qu'on a choisi, on l'a choisi seul parmi une pléiade d'artistes africains, c'est que il a véritablement travaillé sur son œuvre. C'est ce que je veux dire. Il faut, les gens ont du talent, mais comment ressortir ce talent-là?
Il faut travailler.
Franchement, il faut qu'on travaille. L'autre pan de la situation, c'est que nous-mêmes, en tant comme de la presse, il faut voir combien sommes-nous à travailler sur la culture dans notre pays. Et hier, j'ai eu une information que je voulais tout de suite recouper, mais mon interlocuteur me dit « Ah, merci beaucoup parce que l'on pense que la culture ne se vend pas, que la culture n'est pas vendable. » Cette réaction veut dire beaucoup de choses. Et il faudrait que nous-mêmes aussi, l'accompagnement, ce n'est pas seulement pécunier, mais il faut que nous aussi, nous accompagnions cette culture.
D'accord. Et Dieudonné ?
Oui, justement, moi, je voudrais revenir sur le fait que les artistes togolais doivent beaucoup plus travailler. Je suis d'accord, mais je veux dire qu'il y a beaucoup de talent au Togo. Et beaucoup s'efforcent, beaucoup essaient d'extérioriser ce qu'ils savent faire. Ça, ne nous leurrons pas là-dessus. C'est vrai, aujourd'hui avec les réseaux sociaux nous ont permis de découvrir aussi assez de talents qui étaient par le passé cachés dans l'ombre et personne ne pouvait savoir de quoi ils sont capables. Alors ces talents, qu'est-ce qu'on en fait? D'où, moi, je parlais qu'il faut une réelle politique culturelle et culturelle à la fois pour véritablement sortir et apprécier les talents togolais. Aujourd'hui, on parle de quelqu'un, vous ne pourriez pas savoir le sacrifice peut-être qu'il aurait consenti pour arriver là. C'est parce que il est sorti élogieux, voilà pourquoi on en parle. Mais beaucoup veulent bien arriver à ce niveau, mais vous ne pouvez pas imaginer les bâtons qu'on leur met dans les roues et les fausses routes qu'on les fait faire pour qu'ils n'atteignent pas l'objectif. Et pourtant, ils sont pétris de talent, ils ont des choses en eux. Lorsqu'on demandera la bonne personne à la bonne place, on peut très rapidement échanger cette personne avec quelqu'un d'autre qui n'a pas les compétences et vous voulez que la culture avance comment?
D'accord.
Donc, il faut véritablement une réelle politique culturelle, appeler les choses par leur nom.
Je suis parfaitement d'accord avec vous. Il faut vraiment une politique culturelle et culturelle pour amorcer ce développement culturel que nous souhaitons tous ensemble. Alors, nous allons quitter le sujet. Chers confrères, nous allons aborder maintenant le plat de résistance à l'heure de cette émission. Il s'agit bien de la politique. Vous le savez très bien que nous avions le 29 avril dernier, il y a eu les élections législatives. Et à la suite, à l'heure de cela, il y a des résultats, bien sûr, qui sont proclamés. Après ces résultats nous ont démontré quand même que UNI a remporté 108 sièges pour ce qui concerne alors les législatives et 5 sièges pour toute l'opposition. Il y a beaucoup de journaux qui sont revenus sur le sujet aujourd'hui puisque à un moment donné on se posait la question de savoir est-ce que les 5 de l'opposition vont siéger ou pas. Ça a été vraiment le débat sur les réseaux sociaux, sur beaucoup de plateformes, sur les médias. Et aujourd'hui nous avons en quelque sorte la position claire d'un certain nombre de partis politiques. Il y a d'abord Jean-Pierre Fabre qui émet un refus total alors de siéger. Il y a le journal Le Médium qui est revenu sur le sujet ce matin. Il dit Parlement ANC refus de siéger. Alors, et si Jean-Pierre Fabre renonçait également à son mandat de maire Golf 4? Il y a aussi le journal Le Correcteur. Le Correcteur qui est revenu sur le sujet et dit Assemblée nationale. La ANC et les FDR ne siégeront pas. Jean-Pierre Fabre, nous sommes déterminés à libérer le Togo des griffes de la dictature. C'est en quelque sorte un extrait des propos alors de Jean-Pierre Fabre, le président de l'ANC. Et également un autre propos de Maître Paul Dodia Pévon qui dit « Nous devons prendre conscience du délabrement avancé de notre pays causé par une gouvernance aveugle et sans vision. » Alors, sur ce point, bien sûr, par rapport surtout à la position alors de Maître Paul Dodia Pévon, je vous propose alors de suivre un extrait de ce qu'il disait déjà hier à travers une déclaration.
Le problème se pose aujourd'hui de savoir si les 5 députés de l'opposition doivent siéger ou non à l'Assemblée nationale. Par respect pour ses électeurs, le parti FDR n'aurait eu aucune hésitation à aller siéger si le problème se limitait seulement aux maigres résultats obtenus. Mais le grand bazar qui nous a été servi à la place des élections n'avait pour seul et unique objectif pour les tenants du pouvoir que de se donner le nombre de députés pour parachever la rocambolesque initiative de changement de notre constitution entamée dans les conditions scabreuses et intolérables que nous connaissons tous. En effet, ce crime contre le peuple togolais, perpétré de sang-froid et guidé uniquement par des intérêts sordides des députés en fin de mandat et leurs commanditaires, ne peut arriver à son terme et produire les effets escomptés sans le concours des nouveaux députés. C'est pourquoi nous avons pris le risque de participer au scrutin en espérant vivement que les Togolais exprimeraient leur indignation en sanctionnant dans les urnes les auteurs de cette forfaiture et empêcher ainsi leur dérive totalitaire. Malheureusement, non seulement la grande majorité de nos compatriotes n'ont pas réagi à notre cri d'alarme, mais aussi et surtout, les tenants du pouvoir ont fait sortir les élections de leur cadre légal en utilisant le vol généralisé dont les plus visibles ont été les bourrages d'urnes à ciel ouvert, les achats massifs de conscience, les violences et intimidations multiformes pour obtenir un résultat à la sauvegarde soviétique de 108 députés sur les 113. La présence des 5 députés de l'opposition à l'Assemblée nationale est une caution dont ils ont besoin pour leur servir de vernis démocratique. Dans ces conditions, siéger à l'Assemblée nationale par les députés de l'opposition reviendrait ipso facto à reconnaître la constitution contestée et rend inefficace les actions à mener par ces députés en dehors de l'Assemblée pour le retrait de cette constitution. C'est pour éviter cet engrenage que le parti FDR décide de ne pas siéger, en rappelant que dans toutes les prises de position au sujet de cette constitution imposée au forceps, il a toujours clamé haut et fort qu'il ne l'acceptera pas.
C'est pour éviter cet engrenage que le parti FDR a décidé alors de ne pas siéger à l'Assemblée nationale. Alors, la décision, vous l'avez écoutée hein, hier. Adam, d'abord, c'est l'ANC qui nous annonçait qu'elle ne va pas siéger déjà le vendredi dernier. Et hier déjà, il y a les FDR qui disent, mais eux aussi, ils ne vont pas siéger. Alors, est-ce que vous êtes arrivé à comprendre quand même la décision de ces deux partis?
Non, vous savez, aujourd'hui, je pense que la décision... successif des partis, parce que c'est l'ANC qui l'a annoncé premièrement, les FDF s'en ont suivi, je pense que pose beaucoup plus de questions que de réponses, dans la mesure où c'est vrai, lorsque vous écoutez la déclaration, il est clair qu'ils avaient sollicité que, ou souhaité que, en tout cas, la population togolaise puisse sanctionner la mouvance présidentielle due au fait qu'il y avait cette approche en tout cas non compris ou qui a suscité également un certain nombre de regards liés donc à cette constitution. Je rappelle qu'il était prévu par les tests également. Moi, je me dis, lorsque nous avons des situations qui sont prévues dans nos tests, est-ce que nous devons donc les contester? Je pense que cela, chacun a sa petite réponse liée à cela. Mais je me dis, nous n'allons plus revenir sur un certain nombre d'approches liées au fait que ce choix... Parce que moi, j'ai essayé de comparer, en tout cas, ce qu'avait estimé l'opposition en allant à ces élections, en calquant sévèrement, en tout cas, avec une opinion assez tranchée sur cette question de constitution comme étant, en tout cas, la principale sur laquelle il faudrait donc s'abattre pour inviter la population à voter ou à sanctionner, comme eux-mêmes le dit, la mouvance présidentielle. Malheureusement, sur le terrain, pour ceux qui étaient, vous constaterez que cette question ne préoccupait que Kalomé. À l'intérieur, les gens sont préoccupés par autre chose. Et je pense que ce dont ils attendaient, ce n'était pas une question de la constitution, mais ils attendaient plus les députés ou les futurs députés, si nous les prenons comme étant tous candidats à l'époque, sur des questions beaucoup plus essentielles qui étaient liées à leur vie que la question constitutionnelle. Donc vous convenez avec moi que c'était déjà un faux pas qu'avait donc entrepris l'opposition en pensant que lorsqu'on calculait ou on avait une opinion assez tranchée sur cette question-là, on remporterait. Et si tel est le cas, je pense que quelque part, ça vous a dit carrément que l'opinion togolaise a fait un choix lié au fait que cette constitution est acceptée. Puis ce, dès alors que l'opposition elle-même, c'est elle-même qui avait introduit le sujet comme étant un sujet plus ou moins référendaire, puis c'est ce qui était appelé, où on avait appelé
même des sanctions.
Voilà, des sanctions. Mm. Donc, ça voulait dire quelque part que c'est le peuple qui a choisi. Maintenant, en allant à l'Assemblée, c'est la question des fatigues qui devait amener donc l'opposition à siéger. Moi, je le disais, normalement, les cinq, lorsque vous prenez un peu la facture qui représentait, je me disais, la question essentielle, c'est le débat contradictoire. Et lorsque vous les prenez, vous convenez avec moi que ce sont des gens qui connaissent profondément la politique togolaise et pouvait donc se tenir à améliorer les tests, même si ils n'allaient pas affecter par leur position, étant donné qu'ils sont minoritaires, les questions. Mais cela permettrait d'améliorer ce qui est proposé et le débat contradictoire devait être donc de mise à la
D'accord, nationale. Merci beaucoup, Adam. Eric, en suivant l'actualité, cette actualité où déjà l'ANC et les FDR ont refusé alors de siéger, est-ce que vous êtes surpris?
Oui et non. Je suis surpris par le fait que dans la déclaration des FDR, je comprends qu'on a pris des risques en allant à ces élections. Et donc, pour moi, prendre le risque, c'est aller jusqu'au bout. Mais est-ce que on prend le risque d'y aller et si les résultats escomptés ne sont pas cela, on doit arrêter en chemin. C'est là où je dis, je suis surpris. Et non, parce que vous savez, quand vous allez à une compétition et que vous êtes déjà mis en minorité, vous ne voyez pas transparaître quelque chose de probant pour vous. Donc, je ne suis pas surpris de ces réactions-là, parce que déjà, ils se demandent si on y allait, qu'est-ce qu'on pouvait faire au cours des débats. Est-ce que nous aurons le poids nécessaire pour peser sur les décisions ou les lois qui seront votées à l'Assemblée nationale? Encore que nous sommes dans une situation où, avant ces scrutins-là, il y a eu cette histoire de constitution. Et donc, ils se disent que nous n'avons pas accepté cette constitution, mais déjà les premiers pas, à savoir le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, est complètement calqué sur cette nouvelle constitution. Et ça veut dire pour nous, comme l'a dit Maître Apévon, que nous cautionnons ce que nous-mêmes nous avons désavoué avant d'aller à ce scrutin. Voilà pourquoi je dis que je ne suis pas surpris de ces réactions-là.
D'accord. Dieudonné, c'est vrai que c'est aujourd'hui la décision de ces partis politiques, l'ANC et les FDR, mais quand on prend cette décision, finalement, on a compris quand même qu'il y a une frange, bien sûr, des électeurs qui ont mis leur confiance ou qui a mis sa confiance quand même en ces partis politiques. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas trahi cette confiance?
Bon, ce n'est pas trahi cette confiance. Je crois que les militants de ces différents partis sont mieux placés pour répondre à cette question. Mais à ce qui me concerne, d'après ce que j'ai eu à entendre des premiers responsables de l'ANC, il paraît que le choix de ne pas siéger a été donc fruit d'une concertation avec la base. Alors, l'ANC disait que être politique ne veut pas dire forcément plaire à tout le monde, et donc un choix fait par un parti politique n'est pas fait forcément pour plaire à tout le monde, mais par conviction. Et donc ces partis ont fonctionné ou fonctionnent à base de leur conviction. Je disais entre-temps aussi que le parti du maître Apévon a pris le temps pour faire cette sortie. Ce n'est qu'hier qu'on a eu sa position précise, parce qu'on se demandait exactement s'il va siéger ou non, parce que depuis là, il n'a pas encore siégé. Et finalement, on a eu la réponse selon laquelle il ne siégera pas. Alors, de 5, on est revenu à 3 sièges à l'Assemblée nationale côté opposition. Alors, cela se résume dans le mot selon lequel ces deux partis disaient qu'ils ne reconnaissaient pas ou continuent de ne pas reconnaître cette 5e République, ce changement de la Constitution, et donc luttent contre ce changement de la Constitution. Alors, acceptaient aller siéger sous la bannière d'une éventuelle 5e République, selon eux, serait une façon beaucoup plus de trahir leurs militants. Ça, je parle
sur ce point. Est-ce que ça veut dire que quand Mme Brigitte Kafulya-Jamabo Johnson a décidé alors de siéger, c'est une trahison également de cela, de son peuple?
Je ne saurais le dire. Tout dépend de ce qu'elle a eu à dire avec sa base avant de siéger. Je vous rappelle que Mme Adjamabo Johnson est à l'Assemblée nationale aujourd'hui, mais se considérant toujours sous la 4e République et non sous la 5e République, selon ses déclarations.
Tout à fait.
Ah, donc, c'est là un peu, je ne dirais pas contraste, mais la confusion qui est créée, ou alors qui continue d'être semée dans la tête des jeunes politiques, peut-être que nous envisagerons être dans les jours à venir. Est-ce qu'on peut faire la politique sous une République en étant toujours sous une autre République? Là, on se pose la question. Mais je veux m'en tenir plutôt à la question d'espace que ces deux occupants des sièges ont toujours évoqué, disant qu'aucune possibilité ou occasion ne doit être laissée pour se faire entendre. Je veux me dire que c'est en fonction de cette décision qu'ils sont en train de siéger aujourd'hui à l'Assemblée nationale pour pouvoir se faire entendre au minimum possible.
histoire de ne pas laisser plutôt l'Assemblée aux 108 députés du Parti Uni. Voilà pourquoi ils sont là. Maintenant, chacun est libre de définir ou alors d'analyser leur position comme il l'entend. Mais selon eux, il n'est pas question de laisser la petite passerelle. Maintenant, les autres aussi sont libres de ne pas siéger pour dire il n'y a pas question de cautionner ce qu'ils appellent l'immoralité politique.
D'accord. Alors, Jean-Baptiste, moi j'ai envie de vous poser la question de savoir, mais c'est quoi les conséquences qui vont découler de cette décision de ces deux partis politiques?
Bon, d'abord les conséquences, je crois que naturellement, comme les décisions émanent de des partis, des premiers responsables de ces formations politiques, ça veut dire que ce n'est pas un candidat ou bien un élu du parti, de ces deux partis qui parlent, c'est tout le parti qui parle. Alors ça veut dire que, conséquence directe, il n'y aura pas de suppléant ou de qui que ce soit qui irait à l'Assemblée pour remplacer qui que ce soit. Est-ce que ça veut dire? Donc, ça veut dire que le poste là, les deux sièges de ces partis là vont rester vacants. Et peut-être, bon, comme conséquence, naturellement, peut-être la Cour constitutionnelle va constater cela, la vacance, et peut-être cherchera à pouvoir à ces deux sièges, peut-être en revoyant peut-être les résultats définitifs qu'elle avait proclamés au niveau des élections législatives, et voir quel est le parti qui serait en bonne position pour pouvoir remplacer ces deux formations politiques.
Est-ce que les tests les prévoient comme ça?
Bon, justement, et naturellement, oui, il y a absolument, il y a cet aspect qu'il faut voir, les tests, bon, au niveau de la Constitution. Je ne sais pas la Constitution laquelle qui va préciser cela, parce qu'aujourd'hui, on est dans un flou total. On ne sait pas.
Non, c'est fini.
Vous savez, la Constitution a été promulguée, donc il n'y a plus de flou.
Il n'y a plus de flou, mais vous savez, aujourd'hui, ça, selon ce que chacun voit, puisque aujourd'hui, on nous dit qu'on est entré dans une 5e République, mais à en croire certains, ce n'est pas encore la 5e République. Et même
ce qui est officiel, il y a la 5e République qui a été promulguée, en fait. C'est la nouvelle constitution a été promulguée, et donc ce qui veut dire que nous sommes rentrés dedans. Il y a aujourd'hui les dispositions transitoires, et ces dispositions transitoires sont en cours.
Bien, les dispositions transitoires sont en cours, mais l'effectivité, maintenant les deux formations politiques, qu'est-ce que ces formations comment rejettent?
Est-ce que c'est pas une possibilité des déclarations politiques?
Non, mais les opinions des gens ne peuvent pas se substituer.
C'est leur opinion, et peut-être cela est partagé par leurs militants. C'est pourquoi ils ont pris cette décision.
Partagé par les militants, bien sûr, mais il y a certains qui sont à la gouvernance du pays, et ce sont eux quand même qui dictent la loi.
Dites la loi, mais vous savez, ce n'est pas question de dicter la loi, mais c'est une question de conformité à nos tests. La façon dont même la Constitution a été modifiée,
je rappelle, changée. Il ne dicte pas la loi. Cette loi est votée pour le peuple, c'est le peuple qui a fait cette loi. Et donc
ce n'est pas le peuple.
On ne dicte pas la loi. Voilà pourquoi je suis en train de dire aujourd'hui qu'on est dans une démocratie. Je vais revenir
on n'est pas en démocratie. On est en démocratie.
Je suis en train de vous suivre, monsieur Jean-Baptiste. Oui. C'est pour dire à Pascal qu'en réalité, il n'y a pas un dictat que le peuple doit subir.
Le peuple a subi. Soyons réalistes. Est-ce que.
Jean-Baptiste.
Oui. Le peuple a subi un dictat? Oui ou non?
En quoi?
La façon dont la Constitution a été modifiée.
Bon, je l'ai dit à l'entame de...
Changer.
En disant que les tests prévoyaient.
Prévoyaient quoi?
Jean-Baptiste, j'aurais voulu que vous avanciez dans votre logique.
Aujourd'hui, le problème, c'est que on ne peut pas quand même faire une masturbation intellectuelle pour dire que ce qui a été fait par les députés et promulgué par le chef de l'État est conforme à nos tests.
Quel test qui le prouve?
Quel test qui prévoit ça?
La Constitution prévoyait le cinquième des députés pour voter.
Alors, vous savez, maintenant, quand on dit l'article 59 qui disait que le changement de
Constitution. Jean-Baptiste, on ne va pas revenir sur ce débat, s'il vous plaît. C'est bon.
Le débat est toujours d'actualité. Le débat est toujours d'actualité.
Oui, mais mettons. Oui, le débat est justement intéressant. Oui, mais voilà la question que moi je vous ai posée, bien sûr, que par rapport aux conséquences, moi je voudrais. Bon, vraiment que vous m'avez parlé alors des conséquences de
cette. J'ai répondu en disant que bon, peut-être les sièges de l'ANC et de FDR maintenant sont vacants.
Oui, mais sur l'échiquier politique, moi je voudrais savoir alors quelles sont les conséquences que cela pourrait engendrer.
Les conséquences, c'est ce que je dis, peut-être la Cour constitutionnelle, quand elle va constater cela, peut-être va revoir ses résultats définitifs pour voir le parti qui serait le mieux, le ou bien les partis qui seront les mieux placés pour pouvoir venir occuper.
D'accord, merci siège. Beaucoup. Oui, Adam.
En fait, rajouter, bon, ne pas parler de ça, mais en fait, dire que moi, je pense que c'est un saut dans l'inconnu. Un saut dans l'inconnu dans la mesure où, vous savez, si l'on en est arrivé là, vous savez également, puisque plusieurs analystes l'ont évoqué en parlant donc de ce boycott-là qu'il y avait eu en 2019, faisant en sorte que l'opposition n'ayant pas participé donc au législatif a permis cela. Mais aujourd'hui, les conséquences, c'est pourquoi je dis c'est un saut dans l'inconnu, dans la mesure où on ne sait pas de quoi sera fait demain. C'est vrai, sur le test, vous êtes libre de siéger ou de ne pas siéger. Je rappelle que la Cour constitutionnelle ne va pas pourvoir par deux élections, par deux mécanismes à ces sièges-là. Vous êtes libre de siéger ou de ne pas siéger. Je pense que c'est clair, il n'y a rien à faire. Mais c'est dans l'opinion. Si tel est qu'on veut véritablement donc améliorer ou pratiquement faire en sorte que nous ayons davantage la crédibilité au sein de la population, est-ce que ce débat contradisant, ce cadre-là ne permet pas de relever un certain nombre de maladresses peut-être dans la gouvernance et faire en sorte que cela puisse s'améliorer? Moi, c'est de ça même qu'il est question. C'est vrai qu'il y aura des cadres, mais aujourd'hui, nous rentrons dans d'autres choses. Est-ce que ces cadres-là seront encore permanents pour permettre à ce qu'on ait des cadres de discussion pour relever un certain nombre de manquements dans la gouvernance? Je n'en suis pas sûr. C'est pourquoi je dis, c'est un saut dans l'inconnu, plus dans ce temps-là.
Mon cher ami Adam, je crois que peut-être ton développement ne sied pas parce que aujourd'hui, si tu es réellement togolais et tu as eu quand même l'occasion d'observer, je ne sais pas si tu as été sur le terrain pour voir ce qui s'est passé réellement, on ne peut pas parler d'élection. Hein? On ne peut pas parler d'élection.
D'accord, c'est votre avis. C'est votre avis.
C'est vraiment, je ne sais pas, du désordre organisé.
D'accord, ok, c'est votre avis. Eric, s'il vous plaît. Eric, moi je voudrais quand même qu'on s'appesantisse sur les conséquences de cette décision de ces deux partis politiques. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on est en train de faire les mêmes choses et qu'on veut avoir d'autres résultats?
Les mêmes choses comment?
C'est-à-dire on recommence avec les mêmes choses, parce que déjà, il y avait eu quand même peut-être boycott, vous vous souvenez?
Cette fois-ci, ce n'est pas un boycott,
je suis parfaitement d'accord, mais ce n'est pas aussi loin de cela.
Oui, mais c'est boycott. On est en train de boycotter l'Assemblée nationale, tout simplement.
Au fait, c'est une forme de protestation face aux élections. C'est les irrégularités que les gens ont eu
de la chaise vide. Et justement, c'est la chaise vide.
Vous savez, je le disais tantôt que les élections n'ont pas. Maître Apévon l'a si bien dit que ces élections sont sorties de leur cadre légal.
Jean-Baptiste, merci beaucoup, Jean-Baptiste. Oui, s'il vous plaît, nous allons laisser Eric répondre question.
Non, mais tu parles de Maître Apévon.
Bien sûr.
Et je crois que toi-même, tu as ton opinion.
Bien sûr.
Ton opinion, c'est que ce n'est pas des élections.
Pas du tout.
Et c'est quoi?
C'est un désordre organisé.
Désordre organisé pour mettre en place des députés, pour mettre en place des conseillers régionaux.
Naturellement. Naturellement.
Ça vient de quelque part.
Alors, Eric, ma question. Oui.
Je pense que ce qui se passe là, c'est que aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure de dire clairement les conséquences politiques que ces deux postes. Enfin, je parle du poste de FDR et de l'ANC qui ne seront pas occupés à l'Assemblée nationale vont avoir. Politiquement, nous ne pouvons pas les mesurer. D'autant plus que les tests que nous avons ne prévoient pas de tels cas. On a juste parlé des postes ou
des suppléants.
Voilà, que si des gens ne peuvent pas siéger, que leurs suppléants allaient
selon l'ordre
suivre.
Oui.
Mais maintenant, si les gens ne veulent pas siéger carrément, qu'est-ce
si
que
le parti, ça va, le parti ça va, ne veut ça pas
va,
siéger,
ça va donner.
C'est ça.
Et donc jusque là, nous n'avons pas la réponse. C'est pour ça que je disais que notre constitution de 92 regorge également des écueils. Et je crois qu'on n'a pas pris le temps nous-mêmes de les corriger avant ce qui est arrivé. Quand on parle des 4 cinquièmes...
Qui prendrait le temps
pardon, de les corriger.
Justement.
Mais c'est les partis politiques. Nous ne sommes pas des politiciens, nous autres. Voilà, c'est ce que je dis. C'est les partis politiques qui devraient logiquement prendre le temps de le faire. On a eu des législatures où les gens avaient le temps de discuter de cela, de les ressortir, ces écueils-là, parce que accepter que les 4 cinquièmes des députés puissent modifier la Constitution et en même temps dire dans le même texte que pour toucher à un article, l'article 59, il faut aller forcément à un référendum. Je pense que c'est un écueil.
C'est les mêmes députés, sont les mêmes députés qui ont voté ça en 2019.
Qu'on pouvait corriger.
Et je crois les mêmes députés. L'opposition n'était pas.
L'opposition n'était pas. On laisse Eric continuer. Non, on laisse Eric continuer.
L'opposition n'était pas à l'Assemblée en 2019.
Et on me dit.
Jean-Baptiste, on laisse.
La modification était intervenue.
On me dit aujourd'hui qu'on parle de la loi et de l'esprit de la loi. Mais nous sommes en politique. Et donc, lorsque vous désertez le terrain politique, l'adversaire l'occupe entièrement. C'est ce qui se passe. Et moi, je dis, si aujourd'hui, on nous dit la loi et l'esprit de la loi, les gens ont pris la loi. L'esprit de la loi, on le prendra quand ça va nous arranger.
Je ne suis pas d'avis avec mon ami.
Que c'est des écueils qu'on devrait logiquement corriger.
D'accord. Le problème, Jean-Baptiste, s'il te plaît, il faudrait quand même qu'on fasse à ce que nos auditeurs puissent mieux nous écouter. C'est très important. Alors, Dieudonné, vous avez écouté les uns et les autres, bien sûr. Quelle est votre réaction par rapport à cela?
Le dernier intervenant que je viens d'écouter, c'est Eric, qui parlait tout en souriant, sachant bien que ce qu'il est en train de dire manque un peu d'équilibre. Je voulais rappeler à Eric que ce sont les députés qui ont finalement modifié l'entière constitution qui était là. Ils avaient aussi la possibilité de corriger ce que vous appelez écueil. Alors, c'est un choix politique. Comme vous le dites, on reste sur ce terrain. C'est un choix politique. Je reviens sur la question de savoir quelle sera la conséquence. Moi, je trouve la conséquence seulement à deux niveaux ou alors à un seul niveau. Le premier niveau, c'est avoir dans 6 ans, quelle sera la posture des militants de ces différents partis-là qui refusent de siéger aujourd'hui après les élections. On verra si leurs militants leur accordent toujours leur confiance ou non. Ça, c'est à voir par après. Maintenant, à l'Assemblée, il manquera cruellement un débat contradictoire, ce qui devra faire la vie de la 5e République. J'ai l'habitude de dire, quand on rentre dans un régime parlementaire, tout dépend de la vie qui se trouve à l'Assemblée nationale, là où les alliances se font et se défont. Et par moment, il faut qu'il y ait de travail sérieux pour ne pas se laisser abattre. Malheureusement, aujourd'hui, on serait en face d'une seule vague qui va peut-être prendre des décisions ou alors voter des lois où il n'y aura pas suffisamment de voix pour toucher du doigt des insuffisances ou alors des failles pour corriger. Je rappelle que les députés ne sont pas là pour une portion de population, mais c'est pour tout le Togo.
Et donc ceux qui n'ont pas siégé
et ceux qui ont siégé également vont vivre les mêmes réalités ou alors les mêmes évidences. À qu'on siège ou non, on sera obligé de subir d'une manière ou d'une autre. Donc que les gens ne siègent pas ou que les gens siègent, de toutes les façons, les lois seront votées et les choses vont évoluer. Mais il manquera un débat de fond. Si à cela, moi, j'en appelle, je dis, malheureusement, on n'est pas arrivé à ce niveau qui est d'ailleurs l'esprit de la 5e République, avoir de débats sérieux, contradictoires à l'Assemblée nationale. Mais qui va faire ce débat? Les gens ne sont pas à même d'y aller pour des raisons qu'ils évoquent, des raisons qui sont peut-être fondées par moment. Et moi, je dis aujourd'hui, avoir que le parti Unir à l'Assemblée nationale serait retourné carrément vers un autre point, un peu loin de cette réalité.
Mais ce qui est suivi, il y a la DIP et DMP également qui sont là. Oui, Jean-Baptiste.
Oui, je crois que je crois
pour moi, justement. Vous jetez une petite portion de pavé dans la mer. Vous voyez quel espace cela peut occuper. Et pour l'instant, je ne sais pas si l'opposition serait en train de se retrouver pour carrément bouder l'Assemblée nationale.
Oui, je crois.
D'accord.
Que,
ok, oui, Jean-Baptiste.
Oui, mais j'ai suivi avec attention le développement de mon ami. J'ai donné. Mais je sais que, est-ce que en organisant ces élections, est-ce que Unir même voudrait quand même qu'il y ait un débat contradictoire à l'Assemblée? C'est la question, la grande question qu'il faut se poser. C'est la grande question qu'il faut se poser parce que moi, je reviens sur ça parce que quand on organise réellement des élections où on veut des représentants du peuple à l'Assemblée, on ne peut pas organiser tout ce grand cafouillage là à ciel ouvert.
Non, monsieur Jean-Baptiste, vous savez, on peut dire des choses peut-être pour choquer, mais pour l'instant,
pour choquer, on n'en est pas. C'est des réalités.
Voilà pourquoi
les institutions, écoutez, les institutions,
je ne suis pas en train de faire un procès d'intention au parti Unir.
Pas du tout.
Moi,
pas
je
du
fais
tout.
Juste pas du le tout, constat sur les faits.
Pas du tout.
Pour l'instant, je ne dis pas que les élections ont été organisées dans les meilleures conditions possibles. Je ne le dirai pas, et ni jamais. Je ne le dirai jamais. Pour l'instant, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Moi, je dis, tel que les choses sont organisées jusqu'ici, et avec les défections de l'opposition à l'Assemblée, on n'aura pas un véritable débat digne.
Je suis d'accord avec toi, mais peut-être les décisions que ces partis sont en train de prendre, ce sont des décisions politiques qui pourraient faire pression sur le pouvoir. Parce
Merci.
Je le dis, les institutions qui étaient en charge d'organiser ces scrutins n'ont pas joué leur partition.
D'accord, merci beaucoup, Jean-Baptiste. Merci, oui, Eric, rapidement.
Je crois que déjà au lendemain des résultats de ce scrutin-là, on l'a évoqué, que si Unir à 108 députés sur les 113, est-ce qu'il y aurait forcément des débats contradictoires? On l'a déjà évoqué plusieurs fois ici. Je suis vraiment désolé quand mon ami Dieudonné me dit que la démonstration que je faisais n'était pas équilibrée. Je ne peux pas le comprendre parce que je pars de quelque chose. On dit dans la loi qu'il y a une situation qui permettait aux gens de pouvoir toucher à la Constitution. Et dans la même Constitution, il y a une part qui dit que pour toucher à un article, il faut aller à un référendum. Je dis, c'est un écueil. Et tout ça, et je pense que nous avons fait des élections, que ce soit des élections ou des cafouillages ou je ne sais quoi. Aujourd'hui, comme tu le dis, nous vivons cela. Et c'est ça qui va nous conduire désormais, qu'on le veuille ou non. Les gens sont déjà en place. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que moi, j'avais dit ici que je ne souhaiterais pas que l'opposition boycotte cette législature. Parce que quoi qu'on veuille, les lois qui seront votées, ils les auront, et c'est eux qui commenceront déjà par attirer l'attention de l'opinion sur ce qui ne devrait pas aller avec les lois qui seront votées. Et c'est là où il y aura réellement des débats. Et je continue pas à dire.
Rapidement, Eric.
Je demande toujours qu'au-delà de ce qui se fait à l'Assemblée, qu'il y ait des débats publics également. Parce qu'il y a des situations où seule l'Assemblée ne peut pas décider au nom du peuple, parce que même si c'est le peuple qui a élu ces
députés. Merci beaucoup. Alors, notre temps est déjà avancé. Nous allons donner la parole à nos auditeurs puisqu'ils sont à l'écoute et ils s'impatientent même d'ailleurs de rentrer dans ce débat avec nous. Et donc, nous allons faire un clin d'œil à nos annonceurs. Nous revenons juste après pour leur donner la parole.
93.5. Canal FM.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse de ce mardi. Vous comprenez sans doute que nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 22 21 33 114 91 36 73 pour participer au débat de ce jour. 22 21 33 114. Premier auditeur que nous insérons. Allô?
Bonjour, comment va-t-on?
Bonjour, comment vous allez? Allô?
Oui, c'est Richard depuis Copenhague.
Oui, Richard, depuis Copenhague, j'espère que vous allez bien.
Ouais.
Allez-y.
J'aimerais réagir sur un sujet de la 5e République. Sur le plateau, je crois entendre que bon, les 108 députés sont élus par fraude et autres. Je ne sais pas si Jean-Pierre Fabre a fait bon et qui l'autre femme, ils sont élus par fraude aussi. Je ne crois pas que lui aurait choisi ses opposants. S'il fallait choisir quelqu'un, ce n'est pas Jean-Pierre Fabre ou bien à plus loin de le choisir. Ils ont d'autres alliés. Il y avait d'autres de l'opposition dans l'Assemblée sortante. Mais quand vous faites un débat, vous dites que non, les députés, que l'élection n'a pas été bien, qu'il y a eu tellement de fautes, je ne comprends pas. S'il y a eu de fautes, pas, ce ne sont pas ces députés qu'on devrait choisir. Arrêtons ce genre de débat, s'il vous plaît. Merci.
Merci beaucoup, Richard, pour votre intervention depuis Copenhague, à Danemark. 22-21-33-114-91-36-63-75, c'est sur ces deux numéros que vous pouvez nous contacter.
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Votre nom?
Vous avez M. Hakim à l'appareil.
M. Hakim, allez-y.
Bien, je souhaiterais que nos camarades journalistes raisonnent un journaliste. Lorsqu'on me parle de preuve, lorsqu'on me parle de fraude, il faut que on nous dise comment est-ce que les fraudes ont été organisées. Si dans un bureau de vote ou bien dans deux bureaux de vote, il y a eu des personnes qui ont posé des actes, qu'est-ce qui dit que c'est dans le sens de unir que ça a été fait? Ça, c'est un. Deuxième point. Est-ce que ça influe sur tous les députés? Et pour qu'on dise que les élections ont été mal faites, c'est sérieux un tout petit peu. Maintenant, et je voudrais aussi dire, quand j'écoute bien Maître Apevon, ils ont essayé de faire de ces élections un référendum contre la Constitution. Et ils ont perdu. Ils n'ont qu'à avoir la défense de reconnaître qu'ils ont perdu et d'avancer. Et de travailler pour la prochaine fois. Ils ont honte, pourquoi? Ça, c'est de la honte et ils déguisent leur honte dans cette forfaiture. Essayons de faire avancer le pays. C'est vrai. Demain, là, ils auront la majorité au Parlement et ils auront le poste de président du Conseil et ils vont faire avec unir plus tard. Aujourd'hui, c'est le tour d'unir d'être là. Bon. Et aussi, ils n'ont qu'à travailler, aller au Nord. Aller dans les villages, dans les contrées reculées. On me dira qu'ils ont été empêchés. Combien de personnes, combien de fois on a empêché qui que ce soit? Arrêtons de faire le plus fuyant et puis travaillons pour avoir les voix des électeurs.
D'accord. Bon, merci. Merci beaucoup, Hakim, pour votre intervention. 22-21-33-114-91-36-63-75. Allô? 22-21-33-114. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
C'est Arma.
Oui, Arma. Allez-y.
Oui, d'abord, quand les gens disent que, quelque part, les élections n'ont pas été organisées comme il faut, mais il faut quand même dire que la CENI a en son sein des membres de l'opposition. Et pourtant, ceux-là n'ont rien dit. Ils ne sont pas sortis sur les ondes pour parler de quoi que ce soit. Aujourd'hui, les gens jettent l'opprobre sur les institutions qui ont organisé, ils disent qu'il y a eu quoi, sans nous apporter des preuves. Donc, vraiment, il faut arrêter, quoi. C'est-à-dire, quand on a perdu, il faut accepter qu'on a perdu, rebondir. Oui, à bien voir, on comprend bien l'attitude du candidat de l'ANC et celui des FDR. Parce que c'est des gens qui pensent toujours que il faut l'affrontement, il faut chercher une confrontation. Quand celle-ci n'est pas équilibrée, bon, il faut boycotter les choses depuis partie. Ainsi.
Merci beaucoup, Armand, pour votre intervention. 22-21-33-114-91-36-63-75. Après Armand, nous insérons un autre auditeur. Allô?
Oui.
Bonjour.
Allô.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Votre nom?
Pélé. Oui, je suis Pélé de Platon.
Allô, c'est Pélé?
Oui, c'est Pélé. Oui.
Ah, d'accord, allez-y, Pélé.
Oui, donc, moi, je veux parler, comme on parle du débat contre la vie. Parce que,
décidément, Pélé, nous avons du mal à vous écouter, sincèrement.
Ah oui,
bon. Oui. Sinon, il y a d'autres qui appellent et qui... c'est clair, hein, quand nous les écoutons, bien sûr. Alors, nous passons à un autre auditeur. 22 21 33 114 91 36 63 75. Allô? 22 21 33 114. Allô? Allô, bonjour. 22 21 33 114. Est-ce qu'il est toujours en ligne, Michel? Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Votre nom, c'est?
C'est Komi.
Oui, Komi.
Oui.
Allez-y.
Ben, par rapport aux interventions de nos confrères et de nos concitoyens, je veux bien les inviter à ne pas amener le débat pour induire les Togolais en erreur. À choisir la voie de l'extrémisme et du radicalisme. Quand on demande à l'opposition d'aller au septentrion, de faire des sensibilisations, je pense qu'ils n'ont pas oublié que M. Kokoroko a interdit les rassemblements dans les établissements scolaires et que les réunions dans les maisons, les préfets se sont servis des interdictions pour opposer tout rassemblement de l'opposition. Quand vous mettez encore le couteau dans ces plaies, les Togolais qui se sont réunis ces derniers moments et ont vu l'arrivée de ces forces de l'ordre les renvoyer, ils vont se radicaliser. Deuxième chose, quand vous parlez de preuves, et qu'au 21e siècle, vous voyez quelqu'un assis en train de mettre les empreintes sur plusieurs bulletins, et que vous dites que ça va davantage d'un autre parti, outre que le parti, hein, ça va encore radicaliser les gens. Si vous n'avez pas vu, c'est votre droit. Mais ceux qui ont des preuves et ont été déboutés par la Cour constitutionnelle, vous leur dites que c'est votre multiple là ou encore dans leur avantage, ou bien vous questionnez sur la suite de ces votes là, ça va radicaliser les gens. Moi, je veux bien inviter nos compatriotes à tenir des propos qui vont plutôt nous converger vers, ma convivialité. Parce que les gens souffrent de ce pouvoir et de ces manigances. La dernière fois pour les élections, moi-même, mon portable a été retiré. Les vidéos nettoyées, les messages nettoyés. Vous voyez des cas comme ça.
Votre portable a été retiré par qui?
Oui, par l'agent de Fauzel. Que son image.
Pourquoi?
Oui, parce que j'ai filmé des gens. Vous voyez, pour avoir une preuve. Et quand vous parlez comme ça, ça fait remonter, ça fait radicaliser les gens. Ce n'est pas bien.
D'accord. Merci beaucoup, Komi. Merci pour votre intervention. 22 21 33 114. Nous avons encore quelques minutes pour recevoir notre dernier auditeur pour le compte de cette émission. Il est entré déjà en ligne. Allô? Allô?
Oui.
Oui, bonjour.
Oui, c'est Pélé qui revient.
Oui, Pélé?
Maintenant, c'est clair?
Oui, c'est clair maintenant.
Voilà. Bon, je parlais de débat contradictoire. Avec 108 députés du RPT unis, 5 députés de l'opposition, il peut y avoir un débat contradictoire. Si chacun amène sa proposition, mais si ça tient au peuple, mais si l'opposition amène que ce que le peuple veut et que les 108 députés ne veulent pas accepter, mais d'abord l'opposition aussi peut faire les lobbies avant d'y aller. En politique, c'est comme ça. Maintenant, quand les 108 vont refuser, il faut que l'opposition retourne dans la rue et demande au peuple de se soulever. Parce que nous voulons ça pour vous et que la minorité a refusé. La minorité composée de la Cour constitutionnelle a refusé et c'est tout. Maintenant, ce qui concerne, je voudrais dire, le groupe parlementaire dont on parle, une alliance de 2-3 personnes forme un groupe. Je ne sais pas pourquoi s'il faut 10-30 personnes avant de former un groupe. Si nous sommes 2, c'est un groupe. Si nous sommes 3, c'est un groupe. Oui, merci beaucoup. Merci. Je vais répéter à une...
Merci beaucoup, Pélé. Merci. Je pense que Pélé, c'est le dernier auditeur pour le compte de cette émission de ce mardi. Nous revenons en plateau pour faire un tour de table et clôturer cette émission de ce mardi. Club de la presse, bien sûr. Adam, vous avez écouté les uns et les autres se prononcer aussi sur l'actualité. C'est le droit alors de chaque citoyen, bien sûr, puisque nous avons ce droit à la liberté d'expression. Et c'est un débat citoyen. Et nous sommes, eux aussi, enfin les auditeurs aussi ont participé à ce débat. Alors, quelle est votre réaction?
Vous savez, moi, j'ai toujours attaqué quelque chose. C'est que, vous savez, dans notre environnement politique, ce qui déplaît naturellement, c'est justement le fait de ne pas vouloir respecter les tests que nous-mêmes nous donnons. Et moi, c'est à cela que j'invite l'opinion prise dans sa globalité, que nous ayons l'amabilité de respecter les tests que nous nous sommes donnés. On n'a pas besoin que lorsque les tests vont en notre faveur, on les acclame, et lorsqu'ils vont en notre défaveur, on dit ces tests-là ne sont pas bons. Un test, c'est un test. Qu'on soit perdant ou gagnant, respectons tout simplement les tests. Malheureusement, comme je l'ai dit, vous savez, la vie d'une Assemblée nationale est animée par le débat, la contradiction, c'est ce qui fait même la démocratie également. La contradiction, l'opinion contradictoire.
Surtout en régime parlementaire.
Voilà. Donc, moi, je pense qu'en régime parlementaire, justement, moi, je pense que c'est vrai, la question de l'effectif permet véritablement d'avoir ou d'affecter les textes qui sont votés d'une manière ou d'une autre. Mais également, je dis, le fait qu'on ait, parce que j'ai dit, lorsque vous prenez les profits de ces gens, des opposants qui étaient élus, nous, on s'entendait véritablement à un débat très levé, comme je l'ai dit, connaissant dans ses personnalités. Malheureusement, ces boycotts-là, je ne sais pas quelle serait donc l'appréciation de la Cour constitutionnelle par rapport à cela. Sinon, je pense que trois, comme un te l'a dit, trois également, c'est un groupe. On a vu avec la législature dernière, il y avait trois groupes, trois députés qui ont formé un groupe. Ça peut être également le cas, mais l'essentiel, c'est qu'il y ait un débat contradictoire. D'accord. Et respectons donc les tests.
Merci beaucoup, Adam. Eric,
moi, je viens une fois encore de constater que la culture est le parent pauvre de nos débats. Tous ceux qui ont appelé, c'est la politique. Mais nous avons pris beaucoup de temps pour parler de la culture, des exploits que certains Togolais ont fait cette semaine seulement. Bon, malheureusement. Alors, si je reviens au débat politique, je dis, ce qui intéresse les Togolais aujourd'hui, c'est comment, à partir de cette nouvelle législature, nous pouvons approfondir les tests qui régissent la nation. Il ne suffit plus de dire que nous avons de bons tests, mais que c'est dans l'application que nous avons des problèmes. Il faut mettre des garde-fous à ces tests, pour que tout le monde soit obligé de les respecter. Autrement dit, si on sait qu'il y a ce que j'appelais des écueils et que mon ami Dieudonné n'acceptait pas, il y a des écueils dans notre constitution, c'est maintenant ou jamais qu'il faut les relever. Et qui doit les faire? Je pense que c'est le seul député de l'opposition, les deux députés de l'opposition, les cinq députés de l'opposition qui doivent déjà les relever et les soumettre à toute l'Assemblée pour que ça soit corrigé petit petit. Et je crois que c'est ça la démocratie.
C'est ça la démocratie.
Merci, merci Pascal. Merci à nos auditrices et auditeurs. Moi, je voudrais dire tout simplement, béaba en français facile, ce qui préoccupe les Togolais aujourd'hui, c'est comment faire en sorte que, à partir de cette cinquième république, ou alors à partir de ce que vous appelez des tests, que le prix du maïs ne puisse pas aller au-delà de 500. Quand on voit les nuées, qu'on ne pense pas par avoir peur parce que on risque de nager en plein sommeil. C'est qu'on arrive à emprunter des bonnes voies pour aller librement chez lui à l'aison. C'est qu'on mange à sa faim. Je pense que c'est ça la préoccupation des Togolais. Et non l'approfondissement, les tournures de français ou alors les plus gros gagnants. Ce n'est pas ce qui intéresse les Togolais. Mais comment vivre bien, heureux, chez soi. Merci à tous.
Merci à toi aussi, Dieudonné. Jean-Baptiste.
Oui, merci beaucoup pour l'occasion. Je crois que nos auditeurs ont quand même apprécié nos débats. Et pour peut-être revenir un peu sur ce que l'un d'entre eux a évoqué concernant son portable qui a été retiré lors du scrutin, je crois que ça relève des mauvais pans de l'organisation du scrutin, parce qu'on ne peut pas quand même faire une élection et interdire aux électeurs d'amener au bureau de vote leur portable.
Ça ne va pas attacher quand même toutes les élections.
Il a filmé.
Puisque chaque fois les institutions demandent des preuves, s'il y a fraude, demander des preuves, donc c'est le moyen par lequel ce citoyen aussi veut apporter sa preuve à la fraude qui était organisée.
Si vous filmez quelqu'un à son insu, c'est comme ça.
Si la personne fait une action malveillante, vous voulez faire comment?
D'accord, on laisse Jean-Baptiste terminer.
C'est pour dire que, bon, nous, on a besoin aujourd'hui, il est bien vrai, dans nos pays, surtout au Togo, les questions politiques préoccupent beaucoup de citoyens. Mais ce qui est essentiel que nos institutions doivent faire, c'est de faire en sorte que chaque institution joue réellement, pleinement son rôle afin d'éviter des critiques. Si nos institutions jouaient bien leur rôle, je crois que ce débat que nous faisons à longueur de journée n'aurait pas leur raison d'être.
D'accord, merci
et
beaucoup.
Et aussi, on aura le temps de se livrer au développement
du pays. Merci beaucoup Jean-Baptiste pour votre intervention. Adam Adronou, merci à vous pour votre intervention aussi. Eric Pakoudjo-Johnson, merci d'être passé dans cette émission. Dieudonné Séhonou, merci de nous avoir enrichi alors de votre contribution à ce débat. Ça fait toujours plaisir. Nous aurons d'autres occasions, bien sûr. Michel Tomega a assuré la mise en onde de cette émission. Merci à vous qui nous avez suivis. Jérôme Dakouta a assuré la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou. Je vous retrouve demain à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. Portez-vous bien.